en studio, on reçoit Patricia Laurence et Antoinette Petit du Phare Enfant Soleil. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, merci.
Bon.
Merci.
Parlez-nous un peu de ce qu'est le Phare Enfant Soleil.
Alors, notre mission au Phare, c'est d'offrir aux familles nécessitant des soins palliatifs pédiatriques l'ensemble des services et des soins tout au long de leur vie. Ça permet aussi d'offrir à leur famille un accompagnement, un répit et un suivi de deuil. En fait, les familles qui viennent au Phare, bien, c'est des familles qui ont un enfant qui est atteint d'une maladie à issue fatale à court, moyen ou long terme. Ces familles-là, en fait, n'ont pas de profil en particulier. Et nous, on dessert un territoire, l'ensemble de la province, en fait. Mm-hmm. Le territoire, c'est ça. Puis, tous les services au Phare sont gratuits également. C'est
okay.
important de
et
savoir.
Et accessible ou il y a quelque chose comme une liste d'attente?
Non, il n'y a pas de liste d'attente. La liste d'attente...
Non, c'est parce que c'est tellement rare dans le réseau de la santé.
Oui, mais c'est vraiment assez rapide. Dans un mois, les familles sont rappelées.
OK. Et ça consiste en quoi, des soins palliatifs pédiatriques?
En fait, les soins palliatifs pédiatriques, c'est un continuum de soins. C'est des soins parfois actifs. C'est des soins, en fait, qui visent non pas le... On ne veut pas guérir les enfants, mais on veut qu'ils soient confortables, qu'ils soient soulagés, qu'ils aient une belle qualité de vie jusqu'au bout, qu'ils puissent s'amuser jusqu'au bout. Parfois, on peut aller jusqu'à faire une chirurgie si cette chirurgie-là va permettre à l'enfant d'avoir une meilleure qualité de vie. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment des soins qui peuvent être très actifs, mais le but est toujours une visée palliative, dans le fond, donc le confort, la qualité de vie.
Mm-hmm. Préserver du sens et de la qualité.
Exactement.
Voilà. Si je vous demandais, le répit... C'est votre mission principale? Parce que j'imagine assez que pour des parents d'un enfant qui sont aux prises avec une maladie à issue fatale, le drame, en quelque part, c'est qu'ils sont condamnés, eux, à être forts, mm-hmm. beaucoup trop forts,
oui.
beaucoup plus que toute personne le serait dans une situation pareille. Mm-hmm. Alors, cette mission-là de répit, ça consiste en quoi?
En fait, le répit peut prendre plusieurs aspects. Hein. Il y a le répit quand l'enfant va bien. L'enfant peut venir au Phare, avoir des journées, s'amuser, avoir du plaisir. Puis en même temps, il y a une équipe médicale qui fait partie du Phare. Il y a des infirmières aussi. Mais il y a aussi une éducation spécialisée, de l'animation, zoothérapie, musicothérapie, massothérapie. Donc, il peut profiter de tout ça. Mais il y a aussi d'autres moments où l'enfant peut venir au Phare. Donc, ça peut être pour des soins de transition si l'enfant, par exemple, a une chirurgie à l'hôpital ou des soins particuliers à l'hôpital. Avant de retourner à la maison, il peut venir au Phare avec la famille, puis on peut consolider les enseignements aux parents, dans le fond, puis permettre à l'enfant de se rétablir complètement avant de retourner à la maison. Ça peut être aussi des soins de gestion de symptômes, dans le fond, si l'enfant est un petit peu plus souffrant. Il a besoin d'être un peu plus, une surveillance un peu plus soutenue ou une ajustation de la médication, mais l'enfant peut venir aussi au Phare à ce moment-là. Mm-hmm. Puis il y a aussi les soins de fin de vie, parce que les soins de fin de vie font partie des soins palliatifs aussi. Donc, on peut offrir ça. Puis il y a aussi le suivi de deuil qu'on assure à la famille
avec
par la suite.
Avec les parents.
Avec les parents, la fratrie, les grands-parents aussi. Mm-hmm. Exactement. Puis la famille est toujours incluse dans tout ça. On s'occupe beaucoup de l'enfant, mais la famille prend une grande place. Et pas juste les parents, mais la fratrie, les grands-parents aussi. Mm-hmm.
Je me tourne vers Mme Laurence. Mme Laurence, et vous avez un événement de financement. Bien, j'allais dire en cours, mais finalement, il est toujours en place.
Oui, effectivement. En fait, on a donc notre campagne de financement grand public qui est ma fête en cadeau, dont vous faites mention actuellement. Donc, en fait, c'est une campagne qui est offerte, qui est là, qui peut être faite de gens de tous les âges. En fait, tous les gens peuvent participer, peu importe leur âge. C'est une façon de donner un nouveau sens à son anniversaire, en fait. Donc, mm-hmm. le concept est bien simple. C'est que on invite les gens à s'inscrire sur mafêteencadeau.com et par la suite, ces gens-là, donc, invitent leur entourage à faire un don au Phare en l'honneur de leur anniversaire. Donc, ça se fait tout simplement comme ça. Et ça permet donc aux gens, aux fêtés, de devenir en quelque sorte ambassadeurs du Phare, puisqu'il en parle aux gens à son entourage en demandant des dons pour soutenir la cause du Phare.
Et c'est un très, très beau symbole de dire « j'ai un anniversaire de plus, moi ».
Exactement. Mmh. Et c'est là où, quand on dit donner un nouveau sens à son anniversaire, c'est tout à fait ça. C'est de souligner, en fait, que nous, on a la chance d'avoir plusieurs anniversaires et les enfants qui bénéficient des services du Phare ne sont pas aussi privilégiés. Leur anniversaire disons, le nombre de leur anniversaire est très souvent beaucoup plus restreint que le nôtre. Mm-hmm. Donc, ça nous permet de rejoindre, en fait, tout le monde. Et je vous dirais aussi que parfois, les gens nous posent la question, oui, mais on veut amasser des sous pour le faire avec notre anniversaire. On voudrait faire ça en grand. Il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de petite façon de le faire. Il y a des gens qui ont amassé, même des enfants parfois qui ont choisi d'offrir leur fête en cadeau, qui ont ramassé 50, 60 $, d'autres gens qui ont amassé des centaines de dollars. L'important, ce n'est pas le montant au final, c'est le fait de choisir d'offrir sa fête en cadeau offert, de soutenir la cause et de devenir, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, ambassadeur pour la cause du phare.
Et si on veut aider le phare, est-ce que vous recrutez des bénévoles, par exemple? Est-ce que il y a d'autres choses qu'on peut faire pour vous?
Oui, en fait, définitivement, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. On a différents volets, dans le fond, en ce qui a trait au bénévolat. Il y a bien sûr le bénévolat auprès des enfants, donc soit à la maison ou à la maison de soins palliatifs. Donc, des bénévoles qui doivent préalablement avoir suivi une formation de 18 heures qui est offerte par le phare de par la clientèle que nous desservons, bien sûr. On offre aussi du bénévolat à domicile, donc ça va un peu dans le même esprit. On a aussi, on est toujours aussi à la recherche de bénévoles au niveau ce qu'on appellerait administratif. Donc, ça peut comprendre les communications. Parfois, on a des besoins en graphisme, à l'accueil. Mm-hmm. On a des gens qui peuvent nous donner un coup de main, même pour l'entretien du jardin. Peut aller dans toutes les...
C'est tout à fait adapté pour des gens qui se sentiraient émotivement beaucoup trop impliqués en travaillant directement avec les enfants.
Effectivement, ça peut permettre donc là, d'aller, de soutenir, mais d'une autre façon, si on veut.
En terminant, vos coordonnées, parce que si on veut vous aider, il faut savoir où vous êtes et comment on vous joint.
Ben oui, en fait, pour les gens qui auraient envie de participer à la campagne Ma fête en cadeau, donc on vous invite à visiter mafêteencadeau.com et sur le site, vous avez toutes les informations pour y participer, ainsi que les coordonnées du phare qui s'y trouvent, tout comme sur notre site web aussi, qui est phare-lighthouse.com.
Et tous les services qu'on retrouve au phare.
Vos locaux sont situés?
Nous sommes situés dans le Technopôle Ingus, donc dans Rosemont, mais comme disait Antoinette il y a quelques minutes, nous desservons l'ensemble de la province du Québec, mais la maison de soins palliatifs est située dans Rosemont.
Et c'est important parce qu'on a souvent l'impression que des organismes comme le vôtre sont réservés à la population montréalaise et c'est pas du tout le cas.
Effectivement, c'est ça.
D'autant que si vous offrez effectivement du support à domicile...
Tout à fait, on a du soutien du répit à domicile et on l'offre exactement à l'ensemble de la province.
Alors, Mme Laurence, Mme Petit, je vous remercie, je vous souhaite bonne chance, bonne continuation.
Merci de l'invitation. Merci beaucoup.
En Ontario, on s'interroge actuellement sur, vous savez, le petit panneau qui montre un fauteuil roulant pour dire que c'est réservé aux personnes handicapées. Eh bien, ce petit panneau-là, il n'y a plus la cote. Un nouveau symbole pour les personnes handicapées, ça nous vient de Radio-Canada. Un groupe de militants a demandé à l'Ontario de modifier le symbole utilisé pour indiquer un espace réservé aux personnes handicapées. Le Forward Movement, qui défend les intérêts des gens à mobilité réduite, a organisé un événement dimanche pour promouvoir le symbole dynamique d'accès, qui illustre une personne en fauteuil roulant en mouvement. Conçu en 1968, le symbole universel indiquant un espace réservé aux gens handicapés représente une personne assise dans un fauteuil roulant. Toutefois, les personnes handicapées y sont injustement représentées comme dépendantes, passives et sans défense, selon le cofondateur Jonathan Silver. Je ne pense pas que le logo représente l'être humain au-delà de la chaise roulante. Le groupe demande à l'Ontario d'adopter le symbole dynamique d'accès comme signe d'accessibilité officielle. Sur celui-ci, la personne en fauteuil roulant est penchée vers l'avant et se déplace d'elle-même. L'athlète paralympique à la retraite Paul Rosen parraine l'initiative. Le fauteuil roulant n'est pas une condamnation à mort. Ce nouveau logo va changer les attitudes. S'il est adopté, l'Ontario emboîterait le pas aux États de New York et du Connecticut qui exigent que le symbole soit utilisé pour toutes les nouvelles constructions tout en permettant la signalisation existante. Ainsi, le changement ne coûterait pratiquement rien à la province, soutient le groupe.